Bonjour et bienvenue pour cette 8e saison déjà de Du Poil Sous les Bras. Une saison qui démarre en douceur, parce que oui, on peut apprendre des choses intéressantes, de façon douce et joyeuse même. C'est en tout cas le pari que je fais dans Du Poil Sous les Bras, de transférer des connaissances de façon compréhensible et détendue. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis donc La Petite Blanc, et vous pouvez m'écrire, si vous le souhaitez, à laptiteblanc@yahoo.fr. laptiteblanc@yahoo.fr. Cela étant dit, puisque je vous propose dans cette émission d'écouter une personnalité qui a du savoir, des savoirs à partager, eh bien je vous invite à découvrir tout de suite un peu de cette personnalité du jour en écoutant qui sont les gens comme elle.
Les gens comme moi aiment beaucoup les couleurs. Et si je m'habille en noir, je suis obligée de mettre quelque chose de très coloré pour compenser. Parce que sinon, c'est trop sombre. Voilà. Les gens comme moi, comme vous pouvez l'entendre, aiment beaucoup rire. Beaucoup, beaucoup. Peut-être un peu trop parfois, mais voilà. Comme on dit chez moi, j'ai souvent les dents dehors. Voilà. Les gens comme moi... viennent d'une petite île de la Caraïbe, sont très généreux, mais ont aussi une histoire qui est très compliquée, douloureuse et traumatique. Mais malgré ça, on fait contre mauvais gré, bon gré.
Quand je vous dis qu'on va passer un moment joyeux, ça s'entend, non ? Bon, vous entendez aussi quelques bruits de casseroles en arrière-plan, car nous étions installés à côté d'une cuisine professionnelle au cœur de Toulouse et entourés aussi de travaux. Alors voilà, côté ambiance dans cette émission, ce sera des rires, des chants et quelques bruits de fond, mais alors vraiment rien de grave. Allez, c'est parti, direction les Caraïbes. Bonjour.
Bonjour, je suis Valérie-Anne Edmond-Mariette, je suis doctorante à l'Université des Antilles et je travaille sur la mémoire de l'esclavage dans les chansons en Martinique et en Guadeloupe entre 1956 et 1998.
Valérie-Anne Edmond-Mariette est martiniquaise et doctorante en histoire donc, histoire qu'elle étudie à travers le prisme de la musique. Son travail de recherche actuel mêle musique, histoire sociale et histoire du fait colonial. Et avec elle, j'ai eu envie de traverser l'océan pour apprendre un peu de ces histoires qu'on ne nous enseigne pas et de ces musiques qu'on ne connaît pas. En tout cas, moi je ne connais pas la Biguine, je n'avais pas en tête la date de l'abolition définitive de l'esclavage en France et je ne peux pas dire non plus que je connaisse grand chose à l'histoire de l'Atlantique noir. Mais justement, passer un moment en compagnie de Valérie-Anne Edmond-Mariette, c'est entrevoir ce qu'on ne regarde pas d'habitude, de ce côté de l'océan, et essayer de percevoir un petit bout de cette mémoire que l'on n'a pas forcément. Du Poil Sous les Bras, avec Valérie-Anne Edmond-Mariette, c'est parti.
La Petite Blanc, dans Du Poil Sous les Bras.
Valérie-Anne Edmond-Mariette a mentionné l'Université des Antilles. Et je me suis rendu compte, depuis mon petit terre-terre métropolitain et pyrénéen, que je ne savais pas trop, en vrai, ce qu'étaient les Antilles. Alors je me suis dit qu'un petit point géographie ne serait peut-être pas superflu, ni pour moi, ni pour vous. Et au passage, d'ailleurs, je viens de dire métropolitain. Aïe, France métropolitaine, c'est un terme du temps du colonialisme. Je devrais plutôt dire France hexagonale, même si ça exclut la Corse, ou France continentale, mais la Guyane et Terra Delhi ne sont pas insulaires, elles sont donc aussi continentales. Bon, c'est un peu compliqué, mais la Martinique, elle, est antillaise, en tout cas ça c'est bon.
Alors, donc la Martinique est une île qui se situe dans l'archipel des Antilles. En fait, les Antilles, c'est ce que les gens vont couramment appeler en Europe les Caraïbes. C'est-à-dire, c'est le chapelet d'îles qui est bordé par l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes. Côté ouest, la mer des Caraïbes, et côté est, l'océan Atlantique. Et donc, c'est des îles qui vont de Cuba jusqu'à Trinidad et Tobago. Voilà, donc c'est vraiment, on est vraiment le petit chapelet d'îles avant d'arriver sur les côtes du continent américain. Voilà. Ensuite, la Caraïbe, c'est en fait l'espace géographique qui comprend donc l'archipel des Antilles, plus les pays qui se situent sur le continent américain et qui sont bordés par la mer des Caraïbes. Et donc le Mexique, le Venezuela, une partie des Guyanes, pas toutes les Guyanes, parce que par exemple la Guyane française n'est pas directement touchée par la mer des Caraïbes, c'est que l'océan Atlantique. Mais par force politique, elle se retrouve, puisqu'on dit les Antilles Guyanes. Donc c'est tous les pays, en fait, Miami, donc la côte sud-est des États-Unis, la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, dont j'ai déjà dit le Mexique, il y a le Panama, etc., etc. Voilà.
Si vous êtes attentif ou attentive, vous aurez noté que Valériane Edmond Mariette dit « la Caraïbe ». Eh oui, en Martinique, on dit plutôt « la Caraïbe » ou « la mer des Caraïbes ». Alors qu'ici, en France, Schengen, on entend plus souvent « les Caraïbes ». C'est ainsi. Alors, Valériane Edmond Mariette est en cours d'écriture de sa thèse, en tout cas au moment où je la rencontre, et dans cette émission, on va s'intéresser à sa thèse, bien sûr, mais tout autant à ses autres recherches et au chemin qui la mène petit à petit à cette thèse.
J'ai fait un master de recherche en histoire à l'école des hautes études en sciences sociales, et j'ai voulu m'intéresser à un genre musical de la Martinique, de la Guadeloupe, très précis, qui s'appelle la biguine. La biguine, c'est une danse, c'est un genre musical, mais c'est aussi un principe rythmique qui reprend le tac-pi-tac-pi-tac-tac, donc qui est le rythme de base, des musiques et danses au tambour en Martinique et en Guadeloupe. Mais plus largement, dans la Caraïbe. On va le retrouver à Cuba avec des accentuations différentes, c'est ce qu'on va appeler le cinquillo, on va le retrouver dans le tango, etc. C'est vraiment un peu, si je pourrais dire, c'est la rythmique des afro-descendants dans l'espace caribéen et plus largement américain, et particulièrement en Amérique du Sud. Et donc, en fait, j'ai commencé à travailler sur la biguine. Pourquoi ? Parce que juste avant de commencer mon master, j'ai fait ma licence d'histoire à l'Université des Antilles Guyanes à l'époque. Et après, j'ai fait une année de formation en école de jazz, puisque j'ai toujours été passionnée d'histoire et de musique. Et au cours de cette année de formation en école de jazz, il y a un cours où j'étais plus accrochée que jamais, c'est le cours d'histoire du jazz. Et dans ce cours d'histoire du jazz, un jour, le prof me dit « Mais la biguine étant en concurrence avec le jazz dans les années 30 à Paris. » Et là, pour moi, c'est genre révélation. Et je me dis, mais comment je ne sais pas ça, en fait? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et donc, j'ai décroché de tous mes autres cours. Et en fait, j'ai commencé à aller dans les bibliothèques et chercher. Et c'est là où je me suis dit, il faut que je fasse un travail historique dessus. C'est vrai qu'en histoire, je m'étais toujours dit, si je fais une licence, c'est pour aller jusqu'au doctorat. Et donc c'est pour ça que je me suis inscrite en master de recherche. Et j'ai commencé à travailler sur la biguine. Et en travaillant sur la biguine, grâce à un collègue chercheur, Michel Béroir, on a compris qu'en fait la biguine était un genre qui datait de l'époque de l'esclavage. Parce que pour la majorité des Antillais, des îles francophones de la Caraïbe, la biguine, c'est une création qui est après l'abolition de l'esclavage, donc après 1848. Parce que, comme c'est toujours un peu... Les chansons de biguine sont un peu provocatrices, très politiques. Il y a toujours des sens cachés. On est vraiment dans des chansons où on va se moquer. Ce sont un peu... on reprend des rumeurs. On parle de la chose politique. On se moque de candidats aux élections, des choses comme ça. Et donc, dans la tête des gens, dans l'imaginaire collectif, c'est pas possible que des esclavisés puissent et pu chanter cela, en fait, puisqu'ils n'avaient pas le droit, ils ne votaient pas, etc. C'était des biens meubles, c'était des objets. Et en fait, en travaillant sur ça, je me suis rendu compte avec Michel, on travaillait en même temps, que, en fait, c'est une pratique qui date de l'esclavage. Et que cette pratique qui date de l'esclavage existait en même temps que le belay et le groka, qui sont les danses traditionnelles au tambour, mais qui sont aussi un mode de vie en lien avec la nature, etc. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi on a déconnecté la biguine de son passé esclavagiste? Et j'ai compris que les années 30, à Paris, jouaient un rôle dans cela. Parce qu'en fait, dans les années 30, la biguine sera interprétée lors de l'exposition coloniale en 1931. Mais on va voir à partir de 1929 des bals à Paris qu'on va appeler les bals antillais, les bals nègres. Et en fait, ces balles, ben, toute l'intelligentsia parisienne, les surréalistes, le prince de Galles de l'époque, le prince Philippe, vont se presser et vont aller danser dans ces endroits, vont se rencontrer dans ces endroits, puisqu'on est vraiment dans la période de l'art nègre avec Picasso, etc., où tout le monde est un peu passionné, Joséphine Baker, etc. Et en fait, c'est là que la Begin, effectivement, va être en concurrence avec le jazz. Des personnes qui ne sont pas de chez nous vont se mettre, des métropolitains vont se mettre à faire cette musique. Et donc, on va avoir un artiste comme Jean Sablon qui va sortir une chanson « Je suis fana de la Begin », voilà, et tout. Et donc, en fait, c'est un genre qui va être considéré comme, on dit chez nous, doudouiste. Le doudouisme, c'est vraiment, au départ, c'est un genre littéraire qui reprend vraiment les poncifs, les clichés qu'on peut trouver sur la Martinique, enfin la vie aux Antilles, quoi. La mer des Caraïbes, les filles sont faciles, les doudous sont faciles, c'est du rhum, ils sont tous paresseux, enfin voilà, c'est vraiment ces clichés-là. Et en fait, le terme va devenir un terme pour désigner des éléments culturels. La Begin va souffrir de cette image-là, en fait, parce qu'on va considérer que c'est des clichés. Et en fait, on va la rattacher à une pratique de bourgeois de la ville, et notamment de mulâtres. On dirait aujourd'hui métis, donc c'est des noirs qui ont du sang blanc, voilà, mais tout le monde a un peu de sang, tout le monde a les blancs du sang noir, les noirs du sang blanc, mais bon, voilà, c'est ce qu'on appelle les catégories socio-raciales à la Martinique, donc où la classe sociale et la race, donc le phénotype, sont complètement imbriqués, ça c'est un héritage de la société esclavagiste, et en fait la Begin va être cataloguée comme un genre de mulâtre de la ville, alors que les pratiques au tambour, comme le belay, vont être catégorisées comme des pratiques de noirs, pauvres, rustres, mal élevés, incultes, analphabètes de la campagne, avec tout le mépris que cela peut avoir. On dit « bagay vieux nègre » en créole, donc les choses, les affaires du vieux nègre, ce qui est très, très péjoratif et très, très méprisant. Hein. C'est pas du tout et très raciste. Et donc, pour le coup, je vais étudier en fait la différenciation dans nos pratiques et dans nos discours entre Begin et belay. Pourquoi on les oppose? Pourquoi on considère qu'elles ne sont pas sœurs en fait, alors que c'est la même chose? Sauf que la Begin, c'est le rythme du belay qui survit sans tambour en fait. C'est ça la différence, grosso modo. Et c'est comme ça que je vais comprendre que la mémoire de l'esclavage a un impact sur la façon dont on perçoit nos pratiques culturelles. Au sens large, nos façons de manger, notre façon de manger, de nous vêtir, quelles chansons on chante, quelles chansons on danse, quelle sociabilité on a, quelles pratiques culturelles on a. En fait, tout ça est déterminé par cet héritage. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais chercher pour voir s'il y a des chansons qui parlent d'esclavage entre 56 et 98. Et quand je vais chercher ça, j'ai l'intuition qu'il y aura des chansons, mais tout le monde me dit, il n'y en aura pas, parce qu'on ne parlait pas d'esclavage. Et c'est là où la thèse est intéressante parce qu'elle tord un peu le cou, ou en tout cas elle nuance plutôt. Elle vient apporter de la complexité en disant on n'en parlait peut-être pas, mais dans les chansons, dans la musique, on avait un espace de liberté où là on se sentait capable de parler du sujet et de le traiter de cette façon.
Bon Dieu, où s'efface-moi, consolation-moi, lumière qu'amène à moi. Et puis voir où arrêter l'orage là, où gagne un combat. Chaque jour qu'abba moi, qui met tes étoiles à ton ciel, papa, continue maintenant moi. Ou qu'a ouvert elle moi pour voler de qu'à veiller en les moins. Et puis grâce ou moins qu'à l'évésier, poupée sa suive chemin. Chaque jour qu'à bas moins, qui met tes étoiles dans le ciel, papa, continue même moi.
La petite blanc dans du poil sous les bras.
Et la belle voix que vous venez d'entendre, eh bien c'est elle, c'est Valérie Anne Edmond Mariette. Non seulement elle s'y connaît en musique, mais en plus elle chante. Amba Dlo, Dlo, D-L-O, alors pardon pour l'accent, hein, mais ça signifie « sous l'eau ». L'idée d'une thèse sur l'expression dans les musiques des Antilles des mémoires de l'esclavage vient de l'envie de comprendre, de connaître l'histoire pour se connaître aussi un peu mieux.
Le premier objectif de la thèse, c'est déjà de, mine de rien, de me réparer, je dirais ça comme ça. Mais c'est vrai qu'en école de jazz, j'ai été victime de pas mal de racisme. C'était à Paris, ce qui est quand même assez dingue quand on se dit que c'est une école de jazz. Voilà. Et en fait, j'ai reçu pas mal de micro-agressions, en fait, notamment par des hommes. Où en fait, à un moment donné, il y a même eu quelqu'un qui m'a dit « Mais de toute façon, ta musique d'esclave, là, elle n'a pas de valeur. » Et en fait, je me suis dit « Mais c'est pas normal que je doive... » partir de chez moi pour savoir que la biguine et le jazz étaient en concurrence dans les années 30 à Paris. C'est pas normal que je n'ai pas connaissance de l'impact et de l'importance de mes musiques sur la marche du monde, en fait. De la même manière que, pour le coup, ça je le connaissais grâce à l'école, je connaissais l'importance d'Aimé Césaire, je connaissais l'importance d'Édouard Glissant. L'importance de François Fanon, je l'ai apprise chez moi, pas à l'école, mais voilà, je savais qui ils étaient, je savais ce qu'ils représentaient, ce que leurs travaux représentaient pour le monde, mais pas sur le plan musical. Et donc c'est d'abord pour répondre à ça et mine de rien réparer ces micro-agressions que j'ai vécues. Aujourd'hui, en fait, personne ne peut venir s'asseoir à la table et me dire « ta musique d'esclave sans valeur » ou « personne », enfin c'est pas possible. Parce que je sais, en fait, ce que ça représente. Je sais quelle valeur cela a. Et je sais que même si on en fait des caisses en hexagone avec le jazz états-unien, en fait, la biguine, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que je te disais, la biguine, c'est comme le jazz, en fait. Parce que le jazz, il a transcendé ce truc dans l'imaginaire collectif. Ça transcende, c'est un truc d'intellectuel. Donc on passe vraiment d'une pratique née de l'esclavage, de la souffrance, de la ségrégation, etc. Et tout, qui aujourd'hui est exaltée, intellectualisée, jazz à Vienne, jazz à la Villette, jazz, voilà, les victoires du jazz, etc. Et tout. Mais en fait, la biguine, c'est pareil, les gars. Le second élément, c'est parce qu'en fait, je trouve qu'on a vraiment une méconnaissance de notre histoire, et particulièrement de l'histoire de nos musiques, hein, puisque je fais l'histoire de la musique. Et cette méconnaissance nous pousse souvent, nous, Martiniquais, Martiniquaises, Guadeloupéens, Guadeloupéennes, à mal aimer ce qu'il y a à nous, ce qui fait notre identité, ce qui compose notre culture, à mal l'aimer ou à être un peu dans le rejet. Et le fait que quand j'ai commencé à travailler sur la biguine, des gens de chez moi m'ont dit « Mais pourquoi tu travailles sur une musique de blanc ?» C'est dommage, en fait. Et je pense que, mine de rien, le post-colonialisme, en fait, a encore un impact. Ça relève aussi de la domination, ou en tout cas des conséquences de la domination, de mépriser ce qui est à nous. De mépriser ce qui nous compose, en fait, et de devoir faire des choix parce qu'on va considérer que ça, c'est plus africain, donc c'est plus authentique, donc c'est forcément décolonial, alors qu'on est composé de tout ça. Donc, quand on est le fruit de l'esclavage et du colonialisme, comment on se défait ? C'est se défaire, en fait, c'est se démembrer soi-même. Et donc, l'idée, c'est de faire comprendre pour moi, à mes compatriotes, comment, à travers ces musiques, on a réussi à exprimer qui on était. On a notre agentivité. On parle de l'exposition coloniale avec la Biguin. Ben, peu de personnes savent que dans cette exposition coloniale a été chantée une chanson qui s'appelle « La grève Barry-moi », qui est une Biguin. Traduction littérale, la grève m'a bloquée, elle m'a empêchée de circuler. Et cette chanson qui parle de la grève de 1900, qui est une grève qui se déroule au François en Martinique, où des ouvriers agricoles vont être fusillés par des gendarmes. J'ai plus le nombre de morts en tête, mais on a plusieurs morts et pas mal de blessés. En fait, cette grève-là, elle secoue la France de 1900. Elle secoue la France de 1900 et pas mal d'ouvriers en France, après ça, donc en métropole à l'époque, puisqu'on est à l'époque coloniale, vont se servir de cet exemple de grève pour dire « on veut des acquis sociaux, on veut… » voilà, etc. Et donc, le fait de chanter cette grève 31 ans après, dans ce lieu qui est pour montrer les bienfaits de la colonisation, c'est une façon de rappeler « vous avez tué les nôtres ». Et ça, c'est un magnifique pied de nez, en fait. Mais si on ne l'explique pas, on ne peut pas le savoir. Et puis, dernière chose dans ce travail, j'espère vraiment montrer que le tabou est relatif et que cette mémoire, par exemple, il y a Édouard Glissant qui disait que la mémoire de l'esclavage est raturée aux Antilles, parce qu'en fait, elle est morcelée, elle n'est pas entière, parce qu'on ne connaît pas vraiment l'histoire. Alors oui, on ne connaît peut-être pas vraiment l'histoire, mais notre mémoire, mine de rien, dans la musique en tout cas, elle est bien vivace et bien vivante. Et elle l'a toujours été. Donc, ce n'est pas parce que le paradigme politique a changé qu'elle a changé. Non, elle a toujours été, elle a toujours existé. Et j'ai vraiment envie que les gens, en lisant mon travail, se rendent compte, en fait, de la capacité, de l'agentivité, de comment cet espace qu'est la musique a été utilisé, employé, pour pouvoir dire un certain nombre de choses qui ne pouvaient pas être dites ou qui ne pouvaient pas être faites, etc., etc. Et que c'est pas parce que ça a l'air d'être une musique doudou, vient bouger les reins du rhum, des belles filles, etc., que en fait, derrière, il n'y a pas un drame qui se joue, en fait. Et la plupart du temps, plus c'est dansant, plus c'est dramatique, le texte. Donc, voilà.
Si la thèse de Valériane Edmond-Mariette lui est utile, à elle, pour se réparer, elle est aussi utile pour nous tous et toutes qui nous intéressons parfois trop peu à notre passé colonial et esclavagiste. Oserais-je dire à notre présent, parfois tout aussi colonial. Revenons aux dates. Pourquoi donc faire démarrer sa thèse actuelle en 1956 et pourquoi jusqu'en 1998 ?
Alors, 1956, parce qu'en fait, à Paris, à la Sorbonne, se déroule le premier congrès des écrivains et artistes noirs. Un congrès dans lequel on retrouve des personnages comme Aimé Césaire, Édouard Glissant, Webb Dubois, qui n'a pas pu finalement être présent parce qu'il a été interdit d'entrer sur le territoire français ou interdit de départ depuis les États-Unis, je ne sais plus trop. Mais en fait, ce premier congrès est important dans le fait de désigner que toutes ces personnes forment une diaspora. Et cette diaspora, c'est la diaspora noire. Et quelle est l'expérience, quel est l'événement qui fait que cette diaspora se constitue ? C'est en fait l'expérience de l'Atlantique noire, donc en fait la traite et l'esclavage. Parce que s'il n'y avait pas eu la traite négrière atlantique, le monde ne se penserait pas, enfin on ne penserait pas les personnes noires de la même manière en fait. C'est très 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 déterminant. Et donc j'ai voulu partir de là pour cette raison, mais aussi parce que 1956 en Martinique et en Guadeloupe, c'est le début des velléités anticolonialistes, ou plutôt ce sont les idées anticolonialistes qui se démocratisent. Et donc là où avant c'était les préoccupations d'une certaine élite, ou d'une intelligentsia, ça dépend. Là, on se retrouve avec des idées anticolonialistes qui touchent monsieur et madame tout le monde. Et donc, c'est hyper intéressant de voir comment politiquement et socialement les choses changent à ce moment-là en Martinique et en Guadeloupe.
«
Je me suis arrêtée finalement en 1998, parce qu'en 1998, c'est le 150e anniversaire de l'abolition définitive de l'esclavage en France. Et un certain nombre d'événements vont se dérouler, notamment un événement politique. Le 23 mai 1998, il va y avoir une marche organisée par une association, enfin qui n'est pas encore une association ce jour-là, mais qui va se constituer association à partir de ce moment-là, c'est le CM98, le comité pour la marche du 23 mai 1998. Et en fait, c'est une marche silencieuse qui aura lieu à Paris avec des panneaux en fait, qui revendiquent le fait d'être des afro-descendants et donc des descendants d'esclavisés. Et donc ces personnes de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane vont défiler silencieusement. Et donc c'est assez impressionnant de voir ces images, cette déferlante silencieuse avec ces panneaux en disant 1848-1998, en revendiquant cet héritage. Et d'ailleurs aujourd'hui le CM98 fait notamment un très très gros travail de généalogie et permet aux afro-descendants de remonter dans leur arbre généalogique. Voilà.
petite blanc dans du poil sous les bras.
Alors on n'a pas le temps de plonger en détail dans le processus de sélection des œuvres que Valériane Edmond-Mariette a choisi d'étudier dans sa thèse. Sachez quand même qu'elle a répertorié tous les artistes et toutes les musiques de Guadeloupe et de Martinique sur sa période. Et puis elle a affiné, notamment en ne gardant que les chansons qui abordaient au moins 3 des chants lexicaux parmi les 5 qu'elle a repérés, qu'elle a décrétés. Alors les 5 chants, c'était la mer, avec tout ce qui va concerner bateau, navire, océan, l'esclavage, chaîne, fouet, souffrance, etc. L'oubli, tout ce qui concerne la mémoire, les dates, noir, la couleur de peau, évidemment, et l'Afrique, tambour, ancêtre, etc. Et donc au final, elle a conservé, pour son travail de thèse, 33 chansons, qui donc avaient au moins 3 de ces chants lexicaux.
Ou plutôt 33 chansons, plus 3 chansons qui, elles, sont ce que j'appelle les chansons du silence, c'est-à-dire qu'elles parlent de la période dans les moindres détails, ou plutôt dans certains moindres détails, sans jamais dire esclavage, sans jamais dire esclave, sans jamais parler de souffrance. Donc, c'est des chansons qui vont dire, par exemple, je pense à une chanson de Philippe Laville, qui s'appelle « De Bretagne ou d'ailleurs », qui est d'ailleurs considérée un peu comme une chanson folklorique en Bretagne, et qui raconte, qui dit « Parti chercher un avenir meilleur, les yeux tournés vers les îles lointaines, ils ont quitté l'Aquitaine, galion du roi ou... Non, galère du roi ou galion de corsaire, ils ont vogué sur les quais de Quimper, les yeux tournés vers les îles lointaines, ils ont quitté l'Aquitaine, enfin voilà. » Et donc il raconte l'histoire de ces marins qui ont tout quitté pour aller vers les Amériques pour chercher un avenir meilleur, sans jamais parler dans la traversée de ceux qui sont dans la cale. Voilà. Et donc ça, c'est tout aussi intéressant parce que ça dit quelque chose. Et voilà, donc en fait, c'est globalement, c'est ce qu'on va trouver. Ce qui fait qu'en fait, en termes de genres musicaux, il y a de la variété française, de la salsa, du ballet, du guoca, de la biguine, du tango. C'est très, très, très varié. Du raga, enfin, c'est très, très riche. La ville est un descendant de ces marins et entre autres de colons esclavagistes en fait. Enfin, on a tendance à voir la société coloniale et esclavagiste de manière très homogène. Donc les blancs, colons, esclavagistes, les libres de couleur qui eux sont noirs mais ne sont pas esclaves, ils ont été affranchis, voilà. Et puis les esclaves. Voilà, les Noirs, les esclaves. Et en fait, Philippe Laville, lui, il descend, c'est un béquet, comme on dit chez nous, donc les descendants de colons esclavagistes ou les descendants de blancs qui se sont enrichis à cette période-là, mais qui n'étaient pas forcément esclavagistes, même si, bon, c'est un pourcentage, c'est un petit pourcentage. Et en fait, il assume le fait d'être béquet. Quand je dis « l'assume », c'est pas forcément quelque chose... Il n'est pas dans une forme de honte, en tout cas dans la discussion qu'on a eue, il était pas, c'était pas, il s'est pas flagellé, oui, je suis, enfin voilà. Mais en même temps, il est très fier d'être Martiniquais. Il est Martiniquais. Il est tout autant Martiniquais que moi. Je peux pas dire qu'il l'est moins ou parce qu'il serait descendant de colons esclavagistes, parce qu'il serait béqué, ben qu'en fait, non, il est pas, enfin, je suis plus et lui, non, ça n'a pas de sens. On est tous les deux Martiniquais. Et quand je l'ai interrogé sur cette chanson, déjà, il a très généreusement accepté de répondre à mes questions. Il faut savoir que la communauté béquée est très, très, très fermée en Martinique. Qu'on le veuille ou non, ce sont des personnes qui ont une sociabilité très particulière. On ne rentre pas comme ça dans une famille béquée. On n'est pas invité comme ça. C'est pas, ça ne va pas de soi. En tout cas, chez tous, c'est pas, voilà, après, ils sont tous différents, mais voilà. Et généralement, on ne les entend pas dans les médias. Ce ne sont pas des personnes forcément qui vont s'exprimer. Il y en a deux deux ou trois en Martinique qu'on va entendre assez régulièrement dès qu'il y a un peu une crispation sociale, des tensions sociales, des grèves, des manifestations, etc., un certain nombre de revendications. Mais en fait, on ne les entend pas. Il y a des Martiniquais qui ne savent pas comment parle un béquet, qui n'ont jamais entendu un béquet parler parce qu'en fait, ils ne les fréquentent pas et ils ne les voient pas. Donc, qu'il accepte de me parler de cela, d'abord, j'ai trouvé ça vraiment très sympathique, comme tous les autres artistes qui ont accepté de répondre à mes questions. Mais je savais que c'était délicat parce que je venais l'interroger sur une chanson qui, à aucun moment, n'évoque la cale, en fait, du navire négrier. Et donc, il m'a très bien accueilli, la discussion s'est très bien passée. Et moi, je lui ai dit, pour moi, il n'y a pas de doute, vous êtes un artiste martiniquais. Et mon processus de sélection, c'est les artistes martiniquais et guadeloupéens qui abordent la thématique. En fait, c'est pour ça que j'ai voulu m'intéresser à la mémoire, parce que, à travers l'exemple que je viens de citer, de Bretagne ou d'ailleurs, l'idée n'est pas de vérifier ce qu'il dit. Dans aucune des chansons, je m'amuse à confronter ce qui est dit avec est-ce que c'est vrai, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Pas du tout. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le regard que ces personnes qui n'ont pas vécu cette histoire, puisqu'ils sont trop jeunes, portent sur cette histoire. Comment ils en parlent. Et le fait que justement, dans la société, au début de ma période, donc à partir de 56, jusque dans les années... courant des années 70, même deuxième moitié des années 70, c'est véritablement un sujet tabou, dans le sens où, dans les familles, à l'école, on n'en parle pas, ou en tout cas pas dans ces termes-là. Et donc j'ai voulu confronter ça à, bon ben, est-ce qu'on en parle en musique ? Et quand j'ai vu qu'on en parle en musique, je me suis dit, en fait, je pense que parce qu'on ne pouvait pas en parler à table, à l'école, au cours de discussions comme ça informelles, les artistes, eux, ont trouvé un moyen d'exprimer cette mémoire, ou plutôt ces mémoires, puisqu'il y a plusieurs, dans le cas de tout à l'heure, ben, je disais, ben, Philippe Laville, c'est une de ces mémoires, c'est une mémoire de cette période. Et puis, il y en a d'autres qui vont chanter en prêtant leur voix à un captif qui est dans la cale du navire négrier. Je pense notamment à un morceau de Eugène Mouna qui s'appelle Pitié, où en fait, il chante comme s'il était un esclavisé dans la cale du navire négrier. Et donc, c'est sa mémoire qu'il exprime. C'est ce point de vue-là, en fait. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir comment, mine de rien, les artistes sont précurseurs, dans l'espace public, en tout cas, j'entends, avec des morceaux, des chansons qui vont, certaines vont faire un tabac, certaines vont être jouées dans des balles, vont être dansées par des générations qui parfois ne font même pas attention aux paroles. Il y a des gens qui m'ont dit, mais moi, j'ai jamais vu que cette chanson parlait d'esclavage. Et j'ai dansé dessus, j'ai séduit ma femme dessus, enfin voilà. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir à partir des années 70, comment ça devient l'usage dans la politique, dans l'espace public, de parler de l'esclavage, de dire qu'il faut se souvenir, donc de rentrer dans l'exercice du devoir de mémoire, et de voir comment, en fait, les politiques, les militants sont sûrs, par moment, d'avoir inventé une façon d'en parler, alors qu'en fait... Depuis un petit moment, il y en a qui chantaient ça, en fait. Je pense notamment à une chanson qui est écrite grâce à un ouvrage, une chanson qui s'appelle 22 mai de Tiraoul. Donc c'est une chanson belay, c'est l'une des rares chansons belay qui est dans le campus, où en fait il a juste pris l'ouvrage qui s'intitule « La révolution anti-esclavagiste » d'Armand Nicolas. Armand Nicolas qui est un historien martiniquais, mais qui est un communiste aussi, et donc qui a écrit ce petit livre, ce petit fascicule qui circule sous le manteau, parce qu'il est censuré, il n'a pas le droit de circuler. Et en fait, Tiraoul prend ce livre, le lit, et en fait, en fait une chanson. La chanson s'appelle 22 mai, et donc en fait, il raconte ce qui est dans le livre texto. Et c'est hyper intéressant de voir, et ça se passe dans les années 80, où là on est déjà à la confluence de tout ça, en fait. Voilà. À partir de la fin des années 70, les gens écoutent autrement. Et donc, ce sont des chansons qui, pour certaines, vont commencer à être utilisées pour commémorer. Alors que jusque-là, par exemple, je vous citais le tango tout à l'heure, c'est un tango qui sort en 58, tout le monde danse dessus, personne ne fait attention au fait que en fait, c'est un tango qui s'appelle « La prière de l'esclave » quand même, donc, enfin, en tout cas, il y a toute une partie qui fait pas attention à ça, et en fait, ce morceau va être régulièrement réédité en fait sous forme de vinyle. Je crois que Daniel Forestal, il a c'est l'auteur, il le compositeur, il le chanteur. Je crois que ça sort 8 fois en vinyle ou 9 fois, ce qui est quand même assez important pour un morceau un tango qui date autant et qui parle de la prière de l'esclave. Et en fait, à un moment donné, dans les années 70, quand c'est réédité, c'est notamment réédité avec sur la pochette un coutelas. Donc un sabre et une sorte d'esclavisé dessiné rapidement, enfin quand je dis rapidement, enfin un peu de manière abstraite plutôt, pas rapidement. Et alors qu'en fait sur les vinyles précédents, c'est la tête de Daniel Forestal, jeune crooner. Et en fait, dans les années 70, cette réédition prend en compte le fait que il y a eu un basculement dans l'espace public, dans la mémoire collective, et donc on va faire appel aux éléments qui frappent tout de suite. Donc, c'est le coutelas et généralement l'image du marron, donc de l'esclave en fuite, qu'on appelle le nègre marron en créole. Et donc, généralement, c'est un homme avec un coutelas, buste nu, foncé de peau et toujours avec un peu un air très rebelle, très revanchard. Et puis, des fois, une chaîne brisée, genre, il tient une chaîne brisée dans la main ou il y a une chaîne brisée pas très loin qui nous donne l'impression que c'est le coutelas qui a brisé la chaîne. Mais où, en fait, on renverse le discours politique. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais au début de ma période, dans le discours politique, dès qu'on va parler de l'abolition de l'esclavage, on va parler de Victor Schœlcher. Et on ne va pas forcément parler de l'agentivité des personnes mises en esclavage qui n'ont eu de cesse de se rebeller contre le système. Et l'idée des années 60, enfin, les années 70 vont rabattre les cartes, où là, on va avoir des discours où on va dire nos ancêtres étaient des nègres marrons qui se sont rebellés et ça fait partie du processus abolitionniste. Parce que le processus abolitionniste comprend le travail d'abolitionnistes comme Victor Schœlcher et les insurrections répétées et les actes de résistance répétés des personnes en situation d'esclavage. Et en fait, progressivement, comme je disais, ça va basculer. Et donc, je pense que ce qui va changer réellement, c'est la perception des gens. Et puis, dans les années 90, là, on va commencer à voir ce qui est complètement nouveau dans les textes, parce qu'il faut savoir que jusque-là, ce sont des chansons soit qui prêtent leur voix aux esclavisés, donc qui vont évoquer la souffrance, soit qui vont évoquer la rébellion, la révolte, soit qui vont évoquer le souvenir, la mémoire et dire on veut se rappeler et tout. Mais il y a une nouveauté à partir de la deuxième moitié des années 95 à peu près, où là, on va avoir des chansons qui commencent à parler de crimes. Et ça, c'est hyper nouveau. Là, j'ai des chansons où là, on commence à dire, oui, c'est un crime contre l'humanité. Si on demandait réparation, ce serait une autre histoire. Ils nous ont volés. On est dans un discours qui est plus... Par exemple, je pense à une chanson de Gérald Toto, musicien martiniquais, qui s'appelle « Le vrai sauvage ». Et en fait, il dit « Le vrai sauvage, c'était vous ». Et c'est hyper poignant parce que le premier couplet commence, il décrit une scène dans laquelle une scène de viol dans laquelle du lin vient négrier et il dit en fait le vrai sauvage c'était vous, le fouet et la cage encore vous, et vous vouliez de l'or, de l'or, de l'or, des femmes et de l'or.
C'était vous qui vouliez de l'or.
grâce à Valériane et de mon Mariette, j'ai découvert des hommes comme Eugène Monnat, le Nègre debout, des femmes aussi artistes ou figures coloniales comme Joséphine de Beauharnais, Joséphine Coucoupé, dont la statue a été décapitée puis déboulonnée et dont l'ancien lieu est devenu un bac de permaculture. La colonisation est une expérience d'effacement contre laquelle de nombreuses personnes encore aujourd'hui se battent pour se réapproprier leur histoire, leur mémoire et leur lieu. Alors, j'ai eu envie, avant de quitter Valériane et de Montmariette, qu'elle nous dise un mot sur la décolonisation culturelle.
Alors, la décolonisation culturelle, c'est un mouvement politique qui se fait à partir des années 60-70, où l'idée, en fait, les élites intellectuelles martiniquaises et guadeloupéennes se sont bien rendues compte que l'évolution statutaire de 1946, donc la départementalisation, ne fonctionne pas. C'est le temps un peu des désillusions. On se rend compte que les mesures qui devraient être appliquées ne sont pas appliquées. Pour reprendre la célèbre citation d'Aimé Césaire, on est encore des... Enfin, à l'époque, ils sont encore des citoyens entièrement à part et pas à part entière. Et donc, par rapport à cela, vu que politiquement, c'est pas possible d'évoluer ou de faire bouger les choses, donc, on va choisir le plan culturel pour ça. Et donc, c'est là que c'est donc des militants, des militantes, des politiques, des membres d'associations culturelles, etc., vont faire le choix de redorer le blason des pratiques. Tout à l'heure, j'expliquais le terme bagaille viennègue, donc de toutes ces pratiques culturelles qui sont rejetées parce que considérées comme méprisables, méprisantes, etc. Donc, certains vont se concentrer, par exemple, sur la cuisine. C'est là qu'on va avoir une valorisation de tout ce qui va être tina morue, donc c'est les bananes vertes avec de la morue salée, qui vont revendiquer le fait de manger des acras, enfin voilà, ça passe par là. D'autres, ça va être la linguistique, donc on va travailler sur le créole, on va montrer que le créole est une langue complètement. Et puis on va écrire en créole, on va écrire des poèmes, on va écrire des romans en créole, on va vraiment en faire quelque chose, une chose bien à nous en fait. Et c'est aussi en même temps un mélange de quête identitaire en fait. Et puis tout ce qui va être plus largement le belay et le groka, qui étaient considérés vraiment comme des pratiques méprisables, méprisantes, qu'il ne fallait pas pratiquer dans la ville, qui étaient complètement rejetées par une partie de la population. Hein. Il y a une partie de la population, il faut savoir que dans l'assimilation culturelle, qui est le principe français, en fait, on ne parle pas créole. Parler créole, ça veut dire qu'on ne sait pas parler français. On ne marche pas pieds nus. On va se nourrir de blanquettes de veau, voilà, on est de bons français. Donc, on va avoir des pratiques culturelles françaises. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de renverser cela. Et par ce processus-là, on va avoir aussi une valorisation de tout ce qui est dans l'imaginaire des personnes à l'époque, ancestral et africain. Donc, avec tout ce que ça peut avoir de fantasmé, hein, parce que finalement, l'Afrique, c'est plein de pays, hein, c'est plein de peuples. Donc, ce n'est pas du tout une entité une et indivisible, mais il y a cette espèce de fantasme, en fait, qui est très important, parce qu'il sert à revaloriser toutes ces pratiques qui étaient rejetées, qui étaient méprisées, qui étaient vraiment jugées de manière péjorative. Et l'un des exemples de cela, c'est le CERMAC, le Service Municipal d'Action Culturelle de la Ville de Fort-de-France, qui est créé en 79-80. Et en fait, le CERMAC, c'est un espace qui est créé par Aimé Césaire et son conseil municipal. Aimé Césaire, qui à l'époque est maire de la ville de Fort-de-France, la ville capitale.
Pop, je coupe Valériane Edmond-Mariette un instant, car il faut faire un détour par Suzanne Césaire, la femme d'Aimé. Car même si elle n'était pas au conseil municipal de la ville de Fort-de-France, sa pensée a irrigué les actions du CERMAC, et bien au-delà, évidemment.
Suzanne, c'est vraiment la pensée cannibale. C'est le cannibalisme littéraire. D'ailleurs, il y a une citation de Suzanne qui dit la littérature antillaise ou martiniquaise, je ne sais plus, sera cannibale ou ne sera pas. Et en fait, elle s'attaque à la littérature doudouiste quand elle dit cela. Et pourquoi cannibale? C'est parce qu'en fait, dans parmi les peuples Kalina, Taïnos, dans notre espace géographique, donc les peuples premiers, hein, qui ont été, qui sont disparus, qui ont été complètement effacés par la colonisation française. En fait, il y avait une pratique culturelle d'un cannibalisme rituel, où en fait, quand on gagnait une guerre face à un ennemi, admettons, il était réputé pour avoir un œil de lynx. Ben en fait, au cours d'une cérémonie rituelle, après l'avoir tué, on récupérait ses yeux et on ingérait ses yeux pour se réapproprier sa force. Et donc, ça commence par la littérature, avec Suzanne Roussy Césaire et Aimé Césaire. Aimé Césaire va poursuivre cela dans l'espace public foyalais, donc de Fort-de-France, en se réappropriant les lieux de pouvoir coloniaux et notamment en faisant le choix de placer le Cermak, dont je parlais, dans l'ancienne caserne Gallieni, qui était un ancien hôpital militaire, et donc qui était un lieu colonial par excellence. En fait, il met là ce centre dans lequel les Martiniquais et Martiniquaises, et les Foyalais et Foyalaises, pour de modiques sommes, vont prendre des cours de danse classique, de ballet, de danse indienne, puisqu'on a une migration indienne après l'abolition de l'esclavage, des travailleurs forcés, dont on ne parle pas assez d'ailleurs, de danse indienne, de guitare, de piano, de tambour, mais il y a aussi des cours d'art plastique, il y a des cours d'écriture, il y a des cours de théâtre, il y a tout ce qui va être art du spectacle, mise en scène, décor, etc. On va aussi avoir un atelier qui est hyper intéressant, c'est un atelier écologique et qui pense notamment à la dépollution des sols. On est dans les années, fin des années 70, c'est très novateur à l'époque. Et en fait, le point culminant de tous ces ateliers, c'est le festival qui a lieu au mois de juillet, qui s'appelle le Festival culturel de Fort-de-France, et qui va en fait être un haut lieu de la diaspora noire, où en fait on va avoir des Wolso Inca qui viennent au festival, on va avoir des chorales d'Afrique du Sud, enfin voilà, le monde noir se presse dans ce festival, parce que chaque année au mois de juillet, c'est un haut lieu de la culture noire, des cultures noires, et ça c'est le CERMAC. Et le CERMAC va être un lieu d'apprentissage pour énormément d'artistes, réalisateurs. Par exemple, Eusanne Palsy passe dans les ateliers du CERMAC. Eusanne Palsy, qui est la réalisatrice martiniquaise, qui a reçu un Oscar pour l'ensemble de sa carrière il n'y a pas longtemps, en 2023, si je ne me trompe pas. Eusanne Palsy, qui est la réalisatrice de Rue Cazenègre, qui est la réalisatrice de Une saison blanche et sèche, dans lequel joue Marlon Brando, qui va être nommé aux Oscars pour ce rôle-là. Donc, c'est pas n'importe qui. Et donc, Eusanne Palsy fait ses premières mains de réalisatrice au CERMAC. Voilà. Et donc, le CERMAC, c'est ça. Et donc, s'il y a un fruit de la décolonisation culturelle, c'est le CERMAC. Et d'ailleurs, il y a un très, très beau documentaire d'une femme martiniquaise, Chantal de Fontaine, qui s'appelle « L'heure de nous-mêmes a sonné », qui est une citation d'Aimé Césaire, qui reprend l'histoire du CERMAC et qui est visible sur YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à le regarder, parce que ça montre justement l'importance de cette œuvre, qui est une œuvre assez monumentale, je dois dire, de décolonisation culturelle.
Affaire à suivre en découvrant, grâce à Valériane et de Montmariette, les musiques et les mémoires de l'esclavage dans la Martinique et la Guadeloupe des années 56 à 98. Vous pouvez aussi retrouver Valériane Edmond Mariette en ligne en tapant Oliwon Listwa, OliwonListwa. Et bien sûr, on ne finit pas du poil sous les bras sans un petit mot sur les poils de l'invité, pour vous inviter vous-même à réfléchir sur votre rapport à vos poils, aux poils de vos partenaires, pourquoi pas, sur le pourquoi ou le comment on s'épile ou pas, enfin tout ça quoi.
Moi, mon poil sous mes bras, il me dérange parce que je fais de l'eczéma, voilà, donc généralement j'en ai pas. Mais ou sinon, j'essaie progressivement, en grandissant, enfin en étant une femme adulte, de me dire que ça fait partie de mon corps et que c'est pas obligé d'être tout le temps gommé, effacé. Et donc, en fait, je teste des choses. Genre, je laisse les poils des jambes, ensuite j'enlève, ensuite je découvre un peu ça. Et puis, pour le coup, s'il y a des poils avec lesquels j'ai de très, très bons rapports, ce sont mes cheveux. Pour le coup, ces grands, grands poils que j'apprends à, avec le temps, j'ai appris parce que c'est tout un rapport par rapport à l'histoire, le fait d'être une femme noire, c'est tout un rapport aux cheveux qui est très particulier. Et Dieu merci, j'ai grandi dans une famille au sein de laquelle, en fait, on a toujours eu un rapport très sain à nos cheveux, sans être dans le rejet ou dans le mépris ou voilà. Et donc, en fait, avec mes cheveux, ça se passe très bien.
Vous pouvez retrouver Du Poil Sous les Bras en podcast un peu partout, suffit de taper Du Poil Sous les Bras podcast, simple, basique comme dirait l'autre.